L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous inviter ce matin à sortir vos épées. Faites attention de ne pas vous couper. La Bible change des vies. Amen. Pour ceux qui croient, on peut avoir une Bible et c'est une décoration pour dire belle et comme elle brille là, je l'ai toute époussetée, est faite en or sur le côté, est impressionnante. Mais la Bible qui est vraiment impressionnante, c'est la Bible qui est dans nos cœurs qu'on vit. Amen. Et ce matin, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va apprendre comment vivre au sommet. Au sommet de quoi? Sommet du désespoir? Non. Au sommet de la gloire dans le Seigneur. Amen. Donc, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans vos Bibles, dans Deutéronome chapitre 28 et le verset 13. Deutéronome 28 et le verset 13. Et avant de lire la Bible ensemble, on va prier. Amen. Père éternel, on vient devant toi encore une fois ce matin, mais on te remercie, Seigneur Jésus, pour ta parole. On te remercie pour ce temps qu'on a également pour apprendre des choses sur ta bonté et ton désir pour chacun d'entre nous. Et ce matin, on rend toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On te remercie, Seigneur, pour la liberté de ton Saint-Esprit dans cette place. Je te remercie, Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont être transformés, qui vont être changés, qui vont voir les choses d'une façon nouvelle, d'une façon fraîche. Et merci. Merci aussi pour la récolte qui s'en vient dans la vie de mes frères et de mes sœurs. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai le goût qu'on acclame encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin à l'avance? Merci Seigneur Dieu pour la liberté dans cette place ce matin. Merci Jésus. Gloire à toi. Amen. Donc, on va lire Deutéronome 28, verset 13, où il est écrit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. » Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. On va le relire encore une fois. Deutéronome 28, si vous n'avez pas eu le temps de tourner dans vos Bibles, Deutéronome 28, verset 13. Ici, il est écrit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Tu seras toujours en haut. Dites toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Jamais en bas. Est-ce qu'on peut dire avec conviction? Jamais en bas. Bon, moi, j'ai le goût de relire ça encore. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Dites à votre voisin, toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et voyez-vous ici, on a une promesse de Dieu et il y a une promesse, et il y a une condition. Dieu dit qu'il veut faire de son peuple la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras. C'est une clé importante. Des fois, on peut lire la parole de Dieu, on dit, wow, il y a des belles promesses qui sont là. Pourtant, je passe à côté de plein de promesses. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Faut remarquer la condition que le Seigneur nous donne. Lorsque tu obéiras au commandement, ici, on parle un texte de l'Ancien Testament et peut-être certains d'entre vous vous dites, bien, c'est un beau texte, mais ça se référait seulement au peuple d'Israël, donc ça ne me concerne pas. Donc, moi, je m'attends à vivre toujours en bas. Est-ce qu'il y en a comme ça parfois, que vous pensez que c'est normal de vivre la vie chrétienne toujours en bas et être toujours la queue et jamais la tête? Et si c'est votre vision de la vie chrétienne, faut que ça change aujourd'hui. Dites à votre voisin, faut que ça change. Faut que ça change. Amen. 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 J'étais dans l'auto, bien sûr, avant de venir ici. On ne prend pas de chevaux de ce temps-ci, hein? ou de ski-doo, j'étais dans mon auto béni, et puis je parlais avec mes filles, on écoutait de la musique gospel, la musique noire, moi j'aime ça, la musique noire gospel, et j'avais le privilège de l'écouter parce que ma femme était pas dans l'auto ce matin, elle c'est contemporain, faut que ça soit contemporain, moi je suis démodé et j'aime la musique gospel, mais tout ça pour vous dire, j'écoutais de la musique Shirley Caesar, avez-vous déjà entendu parler de Shirley Caesar? Bon, certains d'entre vous, non, on est au Québec, c'est sûr, faut que je m'en rappelle. Mais Shirley Caesar, c'est la reine de la musique gospel mondialement. OK, que vous ne connaissez pas. Mais c'est la reine de la musique gospel. Et j'écoutais des beaux chants puissants, loin de l'Esprit de Dieu. Et je parlais à mes jeunes, à mes deux petites filles, de cette femme, cette grande dame qui aime le Seigneur, qui a marché fidèlement. J'ai raconté le témoignage de Shirley Caesar. Shirley Caesar, dans les années 60, elle chantait le Seigneur, elle était remplie d'amour pour le Seigneur, et les gens du monde sont rentrés dans une église, ils l'ont entendu chanter, puis on dit, cette jeune fille, elle peut aller vraiment loin. Alors, il y a un homme d'une compagnie de disques qui est allé la rencontrer, et puis il a dit, écoutez, chère dame, on voit vraiment le talent. Il reconnaissait pas que c'était vraiment l'onction, oui le talent, mais il y avait l'onction de Dieu, mais on reconnaît vraiment le talent, et on aimerait ça t'en disquer, on aimerait ça que tu puisses enregistrer un album, et puis on va te donner beaucoup d'argent, si tu pourrais vraiment chanter avec nous, pour notre étiquette de disque. Et puis, cette femme-là, Shirley Caesar, a dit, ah, certainement, j'aimerais ça faire un disque, tout ça. Ils ont dit, OK, mais il y a juste une chose. Ils ont dit, tu dois chanter du rock and roll. Elle dit, bien, je vais chanter du rock and roll si je peux rocker pour Jésus et roller pour Dieu. En autre mot, elle disait, oui, certainement, je vais chanter, j'aimerais ça enregistrer un CD, pas un CD des années 60, mais un long jeu, un disque en vinyle. Oui, j'accepte, mais je veux chanter pour honorer mon Dieu, honorer Jésus. Et on dit, ah, ben là, c'est pas possible, madame. Non, je peux pas retourner à New York City puis dire que, oui, j'ai signé un contrat avec Shirley Caesar et était pour chanter, oui, pour honorer Jésus, voyons, je peux pas faire ça. Je vais perdre mon emploi si je te fais signer un tel contrat. Elle dit, bien, c'est ça, moi, dans mon cœur, c'est ça que je veux faire. Donc, il dit, bien, OK, on te donne 20 000 $ pour que tu signes le contrat. Elle dit, non, désolé. OK, 30 000 $ Non, désolé, je veux pas. Je vais chanter pour Jésus toute ma vie. 50 000 $ Et puis là, il continuait. Puis il dit, ben, coudon, qu'est-ce que tu veux? Quel montant est-ce qu'on peut vraiment t'offrir, te donner? Elle dit, mon cher monsieur, il n'y a pas assez d'argent sur cette planète que tu peux m'offrir pour m'échanger mon Jésus. Je vais chanter pour Jésus toute ma vie. Et pour cette jeune femme qui semblait inconnue, qui chantait dans une église, mais qui aimait son Jésus, qui chantait, elle semblait avoir passé à côté d'une belle opportunité selon la pensée, la mentalité du monde. Mais selon Dieu, Dieu avait vu cette jeune fille qui disait, j'aime mon Jésus, je vais chanter pour lui toute ma vie. Et Dieu a décidé de promouvoir cette jeune femme, de faire en sorte qu'elle puisse avoir une promotion, et elle est devenue la reine de la musique gospel dans le monde. Amen. Amen. Mais pour elle, elle ne pouvait pas être achetée et elle a vécu le sommet de la gloire, si on veut, dans les termes humains, parce que même Whitney Houston et les grands de ce monde voulaient chanter avec elle. Et elle a chanté dans les Grammy Awards, les Oscars, tout ça, avec Whitney Houston et d'autres personnes, mais elle chantait toujours son Jésus. Et c'est pas elle qui devait chanter du rock and roll, c'est les autres qui devaient chanter Jésus s'ils voulaient chanter avec elle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, on la voit dans les stades et tout ça, elle chante Jésus, mais elle disait, moi, je chante pour Jésus toute ma vie, je vais toujours l'honorer. Et ce matin, quand on parle vivre au sommet, moi, je veux vous encourager aujourd'hui à ouvrir votre horizon, votre mentalité, permettre au Seigneur de changer votre mentalité afin de vivre le sommet de votre potentiel en Jésus. Vous avez un potentiel dans le monde et des fois, l'ennemi pourrait arriver et vous faire à croire toutes sortes de scénarios, vous faire à croire que vous serez mieux dans telle situation, mais quand on sert le Seigneur Jésus et quand on donne notre vie vraiment et on s'abandonne, on dit « Seigneur, moi je veux t'honorer avec ma vie », le Seigneur va faire de vous la tête et non la queue. Et des fois, vous pouvez dire « Ben là, je passe à côté d'une opportunité ». Non, vous n'avez rien perdu, vous gagnez le monde avec Jésus. Amen. Donc, je vais relire le texte. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Croyez-vous ça ce matin que c'est pour vous? La tête et non la queue. Peu importe l'appel que Dieu a déposé dans votre cœur, peu importe la destinée, si vous croyez véritablement que Dieu veut faire de vous la tête et non la queue, vous pouvez vous attendre à vivre le sommet de cet appel dans vos vies. Si vous êtes appelé, je ne sais pas, comme conducteur de chant, bien, vous pouvez vous attendre à vivre le summum dans cette chose-là. Si c'est comme moniteur d'école du dimanche, si c'est votre passion dans la vie, vous devez vous attendre à vivre l'excellence et le plus haut point là-dedans. Peut-être vous allez vous mettre à écrire des leads du curriculum pour l'école du dimanche, on ne sait pas trop, mais peu importe, si Dieu a déposé un appel sur votre cœur, attendez-vous à vivre le plus haut point possible avec Jésus. Amen. Oui. Bon, il y a des gens qui vont dire, bien là, c'était pour l'Ancien Testament, donc on ne peut pas s'attendre de vivre, bon, ces choses-là supérieures, on doit être humble, on doit marcher dans l'humilité. Et oui, certainement, on veut marcher dans l'humilité, c'est vrai, on veut jamais être orgueilleux, mais ce n'est pas un manque d'humilité, c'est pas orgueilleux de croire ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit quelque chose, moi, je vais dire, je vais croire sa parole et je vais m'attendre de vivre le maximum. Amen. Donc, si on va dans Hébreux, chapitre 8 et verset 6, nous allons voir un texte dans le Nouveau Testament, OK, de la Nouvelle Alliance. Hébreux, chapitre 8. En allant au verset 6. Hébreux 8, 6. En parlant de Jésus. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, dites supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, si vous lisez des promesses de l'Ancien Testament qui s'adressaient au peuple d'Israël, et puis là, vous lisez dans Hébreux 8, 6, un texte que je vais relire, « Mais maintenant, Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » Donc, déjà là, vous pouvez vous attendre que la tête et non la queue, c'est certainement pour vous et encore plus. Amen. De meilleures promesses. Dieu a une provision pour le peuple de Dieu qui a été racheté de la malédiction, puis c'est encore mieux que les promesses que nous pouvons lire dans l'Ancien Testament. Vous savez, j'ai connu une jeune femme qui a dit, avant d'accepter le Seigneur, ça a pris beaucoup de temps, parce qu'elle voyait les chrétiens au Québec, puis elle se disait, c'est des gens déprimés, endettés, dans un sentiment de détresse, cassé comme des clous. Elle dit, je voyais ces chrétiens au Québec, puis je me suis dit, c'est ça être chrétien. J'aimerais ça donner ma vie à Dieu, mais je vois tous ces gens-là malheureux, puis ça ne m'intéresse pas de devenir comme eux. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça se peut que c'est une réalité dans nos églises, qu'on a mal compris c'était quoi vraiment la vie chrétienne? Si notre vie, c'est une mauvaise publicité et les gens pensent que pour devenir chrétien, faut que je devienne misérable, bien c'est pas une belle publicité. Mais ce que Dieu veut faire aujourd'hui parmi nous, c'est qu'on puisse changer notre mentalité de l'Église chrétienne et notre mentalité de la vie chrétienne normale. Je peux vous dire ce que vous avez vu jusqu'à présent au Québec, dans nos églises francophones, et quand on pense aux chrétiens, j'aimerais ça vous inviter aujourd'hui à être prêt à abandonner votre vision présente des chrétiens. Si vous êtes prêt à dire, qu'est-ce que j'ai vu pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, c'est pas tout à fait ça, ce que Dieu veut faire parmi nous. C'est pas tout à fait l'héritage du croyant. Pourquoi, peut-être, vous dites, pourquoi c'est vraiment pas la bonne chose? C'est parce que la majorité des chrétiens n'ont pas cru l'héritage du croyant. La majorité des chrétiens ne connaissent pas leur héritage en Christ. Donc, ils ne peuvent pas recevoir l'héritage. Ils vivent dans la vie chrétienne sans cet héritage dans le Seigneur Jésus. Et ils vivent comme le restant des autres personnes, sauf ils se permettent de dire, on ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire cela. Donc, c'est des ne. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais toute la provision que Dieu veut nous donner, c'est comme, on connaît pas où on dit il ne faut pas en profiter non plus. Donc finalement, on ne jouit pas des péchés, puis on ne jouit même pas des bénédictions. On est malheureux. Mon Dieu, ça ne va pas bien notre affaire. Donc il faut changer. Il faut dire, on dit non au péché qui vient nous voler, nous détruire, mais là on va dire oui à l'héritage que le Seigneur veut nous donner. Amen. On dit oui, Seigneur, ce que tu as dit, moi je suis prêt à croire ce que tu as dit sur ma vie. Amen. Donc, ce matin, je risque de vous déranger, mais moi, je m'attends, je ne vous dérangerai pas d'une mauvaise façon, d'une bonne façon. Au lieu de vous donner des coups de coude comme ça, je vais vous donner des tapes dans le dos pour vous aider à progresser. Amen? Je me souviens quand j'étais en Alberta pendant un temps, comme vous savez, j'étais dans une station de télévision, et comme j'étais là-bas, on a eu une équipe du monde qui sont rentrés dans les studios. C'est une équipe qui venait de Global TV. Et ils sont venus visiter les studios de télévision en Alberta. Et puis, ces gens-là étaient impressionnés. Ils faisaient le tour. On avait 65 000 pieds carrés de studio. Et puis, ces personnes dans le monde voyaient tout l'équipement qui était la dernière technologie. Et puis, ils étaient vraiment impressionnés. Et puis, on dit, mais c'est comment ça? Comment pouvez-vous avoir le meilleur équipement? Vous, des chrétiens, c'est pas supposé être comme ça. Hein? Les chrétiens qui ont le meilleur dans tout. Mais j'aimerais vous laisser savoir qu'avec Dieu, c'est possible d'avoir le meilleur. Moi, là, j'ai une très grande vision et ça coûte rien de l'avoir, cette vision-là. Ça coûte rien avoir la grande vision. Amen, ça coûte rien. Donc moi, je me permets d'avoir la grande vision dans un grand Dieu et je m'attends que nous aurons les meilleures choses pour servir le meilleur Dieu qui est le seul Dieu. Donc, pour rejoindre la francophonie, le peuple que Dieu nous appelle à rejoindre, je m'attends d'avoir les meilleurs studios de télévision, les meilleurs studios pour enregistrer des CD, la plus belle église. Je m'attends à vivre ça, moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je m'attends, quand on va venir s'asseoir dans notre bâtiment qui va être glorieux, je m'attends d'avoir les meilleurs sièges. Je m'attends qu'on va être confortable. Je m'attends d'avoir une belle librairie. On va avoir la belle librairie. Je m'attends d'avoir même une section de café, pour ceux qui veulent prendre le café avant d'aller à l'église. Je m'attends d'avoir un gymnase aussi pour les réunions jeunesse. Mais pasteur, ça coûte cher, ça, ces choses-là? Oui, ça coûte cher. Oui. OK, je continue. Je m'attends d'avoir un département de l'Académie de la foi. Ça va être glorieux. Je m'attends aussi à l'Institut biblique qui va être là. Ça va vraiment être super. On va avoir tout l'équipement, PowerPoint, nommez-le. On va avoir le meilleur. Amen. Mais vous dites, c'est juste pour les gens en Alberta, avoir le meilleur. C'est juste pour eux, là. C'est pas pour nous, les Québécois. Nous, on est nés pour un petit pain, pasteur. Tu savais pas, t'es au Québec. Quelqu'un m'a dit ça en arrivant. Ici, c'est le petit pain, là. Attends-toi pas à vivre des grandes choses ici au Québec. Non, savez-vous, ça c'est un mensonge. Moi, c'est en dessous de mes pieds ces choses-là. Moi, je crois pas dans ces mensonges-là. Moi, je me dis, le Créateur du ciel et de la terre, qui a tout créé, là, il est pas en manque, il est pas en déficit. Il est capable de nous fournir tout ce qu'on a besoin et encore plus, parce qu'il fait de nous la tête et non la queue. Quand le monde rentre parmi nous, ils vont voir la grandeur de notre Dieu. Quand on va arriver à l'église, on va dire, voici ce que Dieu a fait. Amen. Et on va dire, gloire à Dieu pour ça. Donc, je m'attends à vivre le maximum parce que c'est ça que Dieu dit. Mais une des choses qu'on doit faire ce matin, même avant d'aller plus loin, faut vraiment être prêt à échanger nos vieilles mentalités. On doit changer ces mentalités-là pour les remplacer avec la parole de Dieu. Si vous êtes prêt à vraiment croire la parole de Dieu, vous verrez ces choses-là s'accomplir. Vous verrez la grandeur de Dieu parmi nous. Moi, je peux vous dire, j'ai été témoin de la grandeur de Dieu dans la vie de d'autres ministères. Des gens que j'ai côtoyés, qui ont accepté les principes de Dieu, qui ont décidé, je vais les employer dans ma vie, je vais marcher dans les principes de Dieu, et j'ai vu la bénédiction de l'Éternel dans leur vie. Amen. J'ai été témoin des plus grands ministères, j'en ai côtoyé des gens que j'ai mangé avec, et qu'aujourd'hui, leur ministère est grandiose. Bon, qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Bien, déjà, on voit la main de Dieu. Est-ce que Dieu a terminé là? Non, certainement pas. Mais vous savez, le Seigneur, il a besoin de changer nos mentalités. Si on a la vieille mentalité québécoise, qu'on est né pour un petit pain, on va manger du petit pain toute notre vie. Mais si vous êtes prêt à vous divorcer de votre vieille théologie qui vous emmène vers le bas, moi, je peux vous dire, on va vivre des grandes choses si vous êtes prêts à vous débarrasser de ces vieilles choses-là. Une des choses, pendant que j'étais en croisière sur l'Atlantique cette semaine, j'ai rêvé. C'est bizarre, j'ai jamais rêvé comme ça. J'ai rêvé un verset de la parole de Dieu. Pendant toute la nuit, j'ai rêvé un verset de la Bible. Est-ce que c'est possible? Bien, ça a l'air que oui. Je vous donne le verset que le Seigneur me donnait dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. C'est un verset que vous connaissez, mais c'est un verset que le Seigneur travaillait dans mon esprit, Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, faut que j'en parle. OK? 2 Timothée 3, 16 à 17. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile, ça donne quelque chose, la Bible. Utile, dites utile. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice ou dans le droit chemin, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Être accompli, c'est correct, ça, selon Dieu. Être accompli et propre à toute bonne œuvre. Être prêt à le servir. Donc, toute écriture, moi, je vais prendre cette parole et je vais dire, même s'il y a des textes qui vont à l'encontre de la tradition et de la religion de la province, moi, je vais croire Dieu. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Ici, vous dites oui. Moi, je vais croire Dieu au lieu de croire les hommes. Amen. Bon, vous êtes dans la bonne place. J'ai relayé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile. Dites utile. Donc, c'est utile pour vous. Ça va vous servir à quelque chose. C'est pas juste une décoration sur votre tablette chez vous. C'est utile à changer vos vies. Utile à faire quoi exactement? Utile pour enseigner, pour convaincre. Peut-être que vous avez besoin d'être convaincu que Dieu est bon. Peut-être que vous avez besoin d'être convaincu aujourd'hui que Dieu va changer vos finances, que Dieu va sauver vos enfants, que Dieu va guérir vos corps. Parce qu'il y a toutes sortes de traditions et de théologies contraires à la parole. Mais aujourd'hui, si on dit « je vais croire ta parole », vous allez voir un changement. Pour corriger, peut-être que vous avez des fausses doctrines. Il y a des gens qui disent « ben Dieu se sert de la maladie pour se glorifier ». Ça, c'est un mensonge. Dieu ne se sert pas de la maladie pour se glorifier. Dieu se sert de la guérison de la maladie pour se glorifier. Amen. Amen. Oui, mais il y a des textes dans la Bible qui disent « lisez toute l'histoire ». Quand vous lisez toute l'histoire, vous voyez, c'est toujours la guérison de la maladie qui glorifie le Seigneur. Quand on voit les gens, la parole de Dieu nous dit « ils se levaient, ils sautaient, ils se réjouissaient ». Et là, les gens donnaient gloire à Dieu. C'est pas comme « ben là, je suis encore plus malade, glorifions Dieu ». Non, non, hey, j'étais malade, mais là, je suis encore pire. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme « j'étais malade, mais Dieu m'a guéri ». Ah oui, wow! Là, ça, c'est impressionnant. Ça glorifie le nom de Dieu. Mais là, je parle pas sur la guérison ce matin. OK, on continue. Bon, voilà. Pour instruire, pour corriger des fausses doctrines, pour instruire dans la justice, instruire dans le bon chemin. Amen. Afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, vous, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et dans Actes 20, 27, il est écrit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Moi, ce matin, je suis pas là pour vous cacher les bontés de Dieu. Je suis pas là pour vous faire semblant qu'ils sont pas là. Je vais vous lire la Bible exactement comme c'est écrit. Je vais vous dire exactement c'est quoi l'affaire. Puis si ça vous dérange, ça vous dérangera. Il y a un comptable. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un comptable. Et il y avait plusieurs clients. Et puis, un chrétien va voir le comptable. Il dit, « Monsieur le comptable, je vois que vous avez beaucoup de clients. Vous êtes vraiment occupé, tout ça. Dites-moi, parmi vos clients, dites-moi les gens les plus riches, les plus prospères. » Il dit, « Je pourrais vous dire, c'est ma clientèle juive. » « Ah oui? Et les chrétiens? » « Ça, c'est les plus pauvres. » C'est les plus pauvres. C'est ceux qui en arrachent le plus. Je vois leur, mais je fais les rapports d'impôts. Je peux vous dire, les plus pauvres parmi nous, c'est les chrétiens. Ah oui? Ah, c'est bizarre. Donc, selon vous, monsieur le comptable, les riches, c'est les juifs, les pauvres, les chrétiens. Pourquoi pensez-vous? Bien, parce que les chrétiens, ils croient certains versets du Nouveau Testament, mais ils ont complètement oublié les passages dans l'Ancien Testament parce qu'ils se disent c'est pas pour eux. Donc, eux, ils ne peuvent pas bénéficier des promesses de l'Ancien Testament. Ils peuvent juste bénéficier de certaines promesses du Nouveau. Mais les Juifs, eux, ils croient toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et il y a plein de promesses dans l'Ancien Testament concernant les finances. Et ces gens-là croient et vivent ces choses-là. Ah, c'est intéressant. Bon, est-ce que c'est intéressant, pensez-vous? Ah, je suis content que vous avez dit oui. Ben sinon, je ne saurais plus quoi dire. Bon, OK, c'est une réalité. Dans le peuple juif, avez-vous déjà rencontré un juif qui était riche? Oui, certains d'entre vous. Saviez-vous qu'ils ont même une réputation d'être riches, les juifs? Mais d'où c'est que ça... Comment ça, pensez-vous? Et les chrétiens? Connaissez-vous bien les chrétiens? Quand vous dites chrétien, vous pensez à quelqu'un qui est riche, prospère, que ça va bien son affaire. Oh, je te dis les chrétiens, tu vois les grosses cabanes. Non, on pense pas comme ça. Quand on parle d'un chrétien, ah oui, on pense à la mère Teresa. Hein? Oui, on fait les vœux de pauvreté, nous les chrétiens. OK. Là, êtes-vous prêt à vous débarrasser de la religion? OK, c'est bon. On va examiner la mentalité typique des chrétiens aujourd'hui. Tournons dans Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 20. Ce matin, on va voir la mentalité des chrétiens aujourd'hui, la mentalité typique. Ensuite, on va voir la mentalité des juifs. Et par la suite, nous allons voir la mentalité des chrétiens renouvelés. Les chrétiens qui ont compris les promesses de l'Ancien Testament et les promesses du Nouveau et qui ont fait tout ça ensemble, OK, pour comprendre le cœur de Dieu pour ses enfants. Amen, c'est ce qu'on va voir ensemble, pour vivre au sommet de l'appel de Dieu dans nos vies. Amen. Matthieu 6, versets 19 à 20. Les paroles de Jésus, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors, dites trésors, dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Donc, nous avons compris, selon ces paroles inspirées par le Saint-Esprit, prononcées par Jésus lui-même, que nous ne devons pas avoir des trésors sur la terre, que c'est pas notre appel à voir les choses matérielles comme étant notre trésor. Comprenez-vous ça? Amen. Amen, on comprend ça. Bon, la façon qu'on a interprété ça, en plus, nous avons dit, en même temps, ça veut dire qu'il faut rien avoir, et comme en québécois, il faut être des tout nus dans la rue. Des tout nus dans la rue. Faut avoir rien dans la vie. Si on n'a rien, on est plus spirituel. J'ai connu un pasteur. OK, dans son église, il y avait des gens qui conduisaient des belles autos, des Cadillacs, tout le kit, mais lui, il avait une vieille auto rouillée. Et pour démarrer son auto, il devait avoir des outils, il devait ouvrir son capot, et puis il devait travailler avec des instruments, des outils pour démarrer. Et un frère dans le Seigneur, bien vêtu, qui venait de se stationner avec sa Cadillac, il voit son pasteur. « C'est beau, pasteur, le Seigneur te garde humble. Amen, gloire à Dieu. » Et puis, il allait s'asseoir pour entendre le pauvre pasteur prêcher avec sa vieille auto rouillée. C'est dans une église à Granby, ça, frères et sœurs. OK, il ne faut rien avoir. Quand on est démuni, ça glorifie le Seigneur. OK, on continue. Jusqu'à date, vous êtes d'accord là, avec ce que je viens de dire. Là? Ça fait du sens. Là. Philippiens 4, 12. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » L'apôtre Paul qui parle ici. Là. « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » On a lu ce texte-là au Québec, on a cru ce verset-là, parce que c'est biblique et c'est vrai, et on a dit « Alléluia, la disette, c'est pour moi, et je vais vivre la disette toute ma vie. » Gloire à Dieu. C'est ça qu'on a dit. On a lu ce texte-là, ne comprenant pas que l'apôtre Paul, il disait, des fois, là, quand on est dans le ministère, il y a des sacrifices. On peut passer par des saisons. Des fois, on est dans l'abondance. Des fois, on passe par des temps de disette parce qu'on est prêt à faire des sacrifices pour l'œuvre missionnaire. Amen. Mais là, nous, on a pris comme une exception aussi qu'on peut vivre des temps où, oui, faut être prêt à se sacrifier, faut faire des choses, parce que notre cœur, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour les choses matérielles. Mais on a pris comme credo la pauvreté. Et donc, si on est pauvre, on arrache, on est comme l'apôtre Paul. Puis là, on dit, moi, je vais vivre la disette toute ma vie. OK? Ça, c'est devenu une règle dans nos églises, vivre la disette. Dans 1 Timothée 6, verset 10, maintenant, 1 Timothée 6, verset 10, il est écrit, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Vous avez entendu ça? Certainement. « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Et dans nos églises, nous avons prêché contre l'argent, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. L'amour de l'argent, et moi je vais dire amen, et c'est vrai. Amen, c'est biblique. Amen. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Savez-vous que vous pouvez avoir l'amour de l'argent et avoir 10 cents dans vos poches et c'est tout? Vous pouvez être avare et ne rien posséder, parce que votre amour, c'est dans l'argent au lieu dans le Seigneur. Mais ici, ça ne dit pas l'argent est une racine de tous les maux. On a mal interprété, on a pensé que l'argent, c'était la racine de tous les maux, de tous les problèmes. Si vous avez de l'argent, vous avez des problèmes, vous en aurez encore plus. C'est ça qu'on a pensé. Mais c'est l'amour de l'argent, le problème. Amen. Donc, en autre mot, ce n'est pas une question que le Seigneur veut qu'on soit pauvre, qu'on soit démuni, qu'on ait zéro cent dans nos poches, dans notre compte de banque, pour qu'on puisse l'aimer. Non, ce qu'il recherche premièrement, c'est des cœurs d'adorateurs qui l'aiment et qui disent « Seigneur Jésus, tu es ma source et c'est en toi que je place tout mon amour, toute mon affection, toute ma confiance. Mon amour est en toi exclusivement. » Ceci dit, quand on est en amour avec Dieu, et Dieu le sait vraiment, ça ne lui dérange pas de nous donner de l'argent pour prendre soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Amen. Comme Shirley Caesar, comme je vous ai raconté son histoire, son amour numéro un, c'était Jésus. Et elle a voulu chanter pour Jésus. Mais après ça, quand Dieu a vu son état de cœur et sa maturité, Dieu a été capable également de la bénir financièrement parce que ce n'est pas l'amour qui la gouvernait, ce n'est pas l'amour qui était comme son amour, mais c'était Jésus. Voyez-vous, c'est une question d'amour. C'est pas une question du montant dans notre compte de banque. Il y a des gens qui sont très, très riches et qui n'aiment pas l'argent. Il y a d'autres personnes qui sont très, très pauvres et qui aiment l'argent et qui donneront jamais une cent. Il y a des gens qui disent, si moi j'avais de l'argent, je donnerais plus à l'église. Ça, c'est faux. C'est faux. Si on donne pas quand on est cassé, on donnera pas quand on va être riche. Parce que c'est une question d'amour. Question d'amour. On peut être cassé comme des clous et donner ce qu'on a, une petite portion, parce qu'on aime le Seigneur, et Dieu va bénir ça. Amen. Mais là, je prêche pas là-dessus. OK, je continue. Donc ça, c'est la mentalité typique au Québec, et en plus, on a eu l'influence de l'Église de cette province qui nous encourageait à faire des vœux de pauvreté. Donc, si on était pauvre, c'était vraiment un signe de bénédiction, c'était un signe d'humilité. C'était comme, moi là, je veux pas rien, je veux pas les choses de ce monde, je veux exclusivement le Seigneur. Et on a été séduits par ça. Réaliser ce matin qu'il y a eu une influence démoniaque dans cette province. Et quand je dis démoniaque, c'est vrai. C'est un esprit de séduction pour enlever la pensée des gens, la pensée de Dieu, pour faire en sorte que la pensée de l'ennemi puisse s'infiltrer dans nos églises pour qu'on soit tous pauvres. Quand on est pauvre, quand on marche sous la malédiction de la pauvreté, c'est impossible de financer le royaume de Dieu. Écoutez ce matin, qu'est-ce que je vous dis, c'est vrai. Quand on est tous cassés comme des clous, pouvons-nous acheter des bâtiments, des grosses églises? Pouvons-nous acheter des studios de télévision pour proclamer le nom de Jésus? Pouvons-nous enregistrer des CD de louanges pour distribuer à droite et à gauche? Pouvons-nous payer pour les missionnaires? Non, quand on est cassé comme des clous. Donc, l'ennemi, ce qu'il veut, c'est garder les chrétiens cassés financièrement pour freiner l'évangile. Amen. Ce n'est jamais question pour Dieu, qu'est-ce qui est important, c'est notre amour. Mais si on aime véritablement le Seigneur et que Dieu demeure toujours notre focus, et si on comprend en même temps que toutes les choses que nous possédions aujourd'hui appartiennent véritablement au Seigneur, ça veut dire que vraiment on peut avoir tout ce qu'on peut avoir nécessairement de besoin. Mais si Dieu dit maintenant c'est temps de relâcher ton auto, on donne notre auto parce que ça nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Si Dieu dit donne ta maison à tel frère qui est dans le besoin, on donne notre maison à un tel frère, parce qu'on est capable de le faire. Comprenez-vous? Parce qu'on n'est pas matérialiste. On aime notre Jésus. Et on comprend que c'est lui notre source. Aujourd'hui, je suis en train de dire ça, puis pour certains d'entre vous, c'est comme, donner ma maison. Est-ce que c'est même possible? Certains d'entre vous, là, c'est comme, pasteur, là, reviens à Granby, s'il vous plaît. Non, c'est vrai. Avez-vous déjà pensé, si Dieu vous disait, j'aimerais ça, mon enfant, que tu donnes ta maison à tel frère dans l'église? Quelle serait votre réponse? Seigneur, elle appartient à la CIBC, ou la TD, ou la BOM, ou BMO. Je suis pas capable. Mais Dieu, il veut que ça soit transféré dans votre nom, et après, si Dieu dit, donne-la à ta maison, vous allez pouvoir dire, oui, papa. Mais quand ça ne nous appartient pas, on ne peut pas la donner. Amen. Mais là, je ne prêcherai pas là-dessus non plus. OK. Donc, jusqu'à date, ce qu'on a vu, la mentalité québécoise, c'est vive la pauvreté. Amen? C'est simple? Vous comprenez ça. Êtes-vous prêt maintenant à voir la mentalité juive? OK. Allons ensemble dans la Bible. Proverbe 10, 22. En passant, c'est les pensées de Dieu. Quand on lit la Bible, c'est la pensée de Dieu. Ce n'est pas d'un mouvement américain. Amen. Je vous lirai pas des livres imprimés de Tulsa, Oklahoma aujourd'hui. Je vais vous lire la Bible. Il y a des gens qui vont vous accuser, ils vont dire, ben toi tu vas dans une église où ils disent qu'il faut être riche pour être sauvé. Non! Vous pouvez être les plus pauvres sur la planète et venir à l'église de la Victoire du Québec. Vous pouvez être en faillite et venir à l'église de la Victoire du Québec. Vous pouvez venir dans cette église avec des trous dans vos vêtements. Mais gloire à Dieu, si vous avez des trous dans vos vêtements, ma prière, c'est qu'il va y avoir des frères et des sœurs qui vont vous donner des vêtements qui vont être recouverts de tissus. Amen. Amen. Non, ici, vous allez voir ce que nous croyons, c'est la Bible. Là, vous avez le choix de croire la Bible ou la tradition. Mais rappelez-vous toujours, ne sortez jamais de cette église disant que c'est un message matérialiste ou que c'est l'amour de l'argent. Certainement pas. C'est pas une question d'amour de l'argent. C'est une question d'amour pour le Seigneur et d'avoir les priorités de Dieu. Les priorités de Dieu, c'est que les gens entendent parler de Jésus, qu'ils soient sauvés. Mais pour faire ça, faut avoir des finances. Amen? Amen. Proverbe 10, 22. Ici, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Croyez-vous ça ce matin? Bon, je vais le relire pour ceux qui n'ont pas dit « Amen ». Proverbe 10, 22. Vous pourrez même noter ça, ces versets-là. Parce qu'il y en a certains d'entre vous, ça va carrément contre votre croyance présentement. Là. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Là, je vais relire pour ceux qui n'ont pas dit « Amen ». C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, ça fait mal ce mot-là. Dans une église évangélique au Québec, le mot enrichir, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bon, amen. OK, là on continue. Proverbe 21, verset 5. Allez dans Proverbe 21, verset 5. Ici, vous verrez, Les premières paroles que l'être humain a entendues décréter sur sa tête, prononcées sur sa tête, c'était des paroles de bénédiction. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». C'était des paroles de bénédiction. Et puis, si Dieu a commencé à parler à l'être humain avec des paroles de bénédiction, certainement, Dieu n'est pas contre la bénédiction. Amen. Proverbe 21, verset 5. Il est écrit, « Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Comprenez ici, les Juifs comprennent que c'est important de se servir de leur tête pour établir des plans pour vivre l'abondance. Comprenez cela. Donc, nous les chrétiens, on a cru que Dieu est souverain et que Dieu est au contrôle de tout. On a cru ça. Oui, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué de l'autorité à l'être humain et nous devenons responsables. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas ça. Ils disent, Dieu est au contrôle de tout, j'ai rien à faire, tout va venir vers moi. Je prie, Seigneur, j'ai tel besoin, je dois tout faire, non, je dois rien faire plutôt pour recevoir, je vais être assis dans mon lazy boy spirituel et Dieu va tout faire pour moi. Jésus a déjà tout accompli, maintenant c'est à notre tour de prier, de recevoir le mandat de Dieu pour connaître le plan que Dieu veut qu'on puisse établir, qui est en fait son plan, qu'on est en train de répondre et dire, oui Seigneur. OK? Donc, une des choses, qu'est-ce qui est vraiment importante pour nous, c'est de comprendre ici la pensée juive, celui qui s'applique, une application, qui fait quelque chose, c'est un verbe, celui qui s'applique à élaborer des plans, connaîtra l'abondance. Ça veut dire, on va prier et on peut prendre le temps et élaborer un plan, peut-être, si vous êtes en affaires, vous allez vous établir un plan, peut-être sur 2 ans, 5 ans, je sais pas, peu importe, mais vous élaborez un plan économique. Est-ce que c'est correct, ça? Est-ce que c'est biblique? Oui, c'est biblique. Amen. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Ou celui qui, sans réflexion, on réfléchit pas, on fait n'importe quoi. Maintenant, Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7, il est écrit, « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Savez-vous que les Juifs, ils prennent leurs enfants et puis ils leur enseignent comment économiser de l'argent. Quand ils reçoivent un cadeau de fête, au lieu de dire, ben, tu viens d'avoir 20$ de tante Jacqueline, ben là, au lieu de dépenser ton 20$ au cinéma d'un seul coup, mets la moitié dans le compte de banque, tu peux en profiter de la moitié. Et ou sur ta moitié, ou peut-être avant, tu vas remettre ta dîme, fais une offrande et ensuite mets de l'argent de côté et dépense une portion. Ici, on compris de ne pas vivre dans l'esclavage de l'endettement, mais ils devaient mettre de l'argent de côté. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens, ça. Amen. Oui, mais je suis pas capable, moi, de mettre de l'argent de côté. Si tu le dis, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous parce que vous le dites. OK. Là, je sais que je dérange des gens, là. OK, je vais le relire pour vous déranger davantage. Peut-être si je parlais plus doucement. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Est-ce que ça passe mieux? C'est la vérité, c'est quand même la Bible. OK, je continue. Proverbe 10, verset 3 à 6. Ça, c'est la mentalité des Juifs, là. Comprenez. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Verset 4. Celui qui agit d'une main lâche, dites lâche, s'appauvrit. Amen. Oh! Mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Hey, je vais le relire, ça c'est bon. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Oh, il y a des bénédictions. Verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. Je vais relire verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a de la bénédiction sur la tête du juste. Êtes-vous un juste aujourd'hui? Avez-vous été purifié dans le sang de l'agneau aujourd'hui? Amen. Là, je vais dire. Avez-vous été pardonné de vos péchés? Êtes-vous des chrétiens? Bon, ben, vous êtes des justes, vous êtes des saints, n'est-ce pas? Ben là, Dieu dit de vous, ici, dans ce texte-là, non, c'est pas ce texte-là, excusez. OK, oui. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Sur votre tête, il y a des bénédictions. Savez-vous ça? Regardez votre voisin, regardez la pile de bénédictions sur sa tête. Qu'est-ce que vous voyez sur la tête de votre voisin? Une pile de bénédictions pour vous. Ben là, je crois pas cette théologie-là, pasteur. Ben, c'est une théologie biblique. C'est la Bible qu'on lit. Quand les gens disent, ben moi, ça me tape ses nerfs d'entendre parler de ces choses-là, c'est matérialiste. Non, c'est biblique. C'est juste biblique. C'est une question de motif du cœur. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vous prêcher les mêmes versets, là, mais son motif, c'est des choses contraires à la volonté de Dieu. Puis peut-être, c'est juste pour stimuler l'esprit avare en vous. Puis là, tu sais, c'est toute une question de motif du cœur. Mais si vous comprenez, OK, Dieu a dit ça, et moi, je crois que c'est vrai. Et puis mon cœur, premièrement, c'est mon amour pour Dieu. Puis là, on reste dans le bon, la bonne motivation, un cœur pur. Et Dieu est capable de bénir le cœur pur. Mais il y en a, là, il y a des gens qui viennent dans des réunions semblables à aujourd'hui. Ils écoutent ça, puis c'est des gens avec des oreilles, là, avares. « Ah, si je deviens chrétien, je vais venir full riche. » Et puis là, Dieu voit leur cœur rempli de pourriture. Puis là, ils sont là, ils font toutes sortes d'affaires. Ils vont même remettre des dîmes, des offrandes. « Je vais faire du cash. » Et là, ils ont une mauvaise attitude. Et là, au lieu de faire plus d'argent, leur compte de banque va dans le négatif, négatif, négatif. Puis ils comprennent pas. Ça marche pas, cette affaire-là. Ça marche pas, c'est juste une gamique. Non, c'est pas une question de gamique, c'est une question que ton cœur est tout croche. T'entends mal le message. Mais aujourd'hui, si vous entendez bien, dites « j'entends bien ». Je suis pas tout croche. Au nom de Jésus. Non, vous êtes du bon monde, vous autres. OK, je continue. Proverbe 8, versets 17 à 19. Dieu dit, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi, Dieu dit, sont la richesse et la gloire. » Avez-vous lu ça dans votre Bible? Oui. « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. » Et mon produit est préférable à l'argent. Savez-vous pourquoi? Moi, je n'ai pas demandé à mes parents, là, mais j'ai goût de témoigner pour eux. Vous savez, mes parents, là, mon père a toujours dit, quand je vais être à la retraite, moi, je vais m'en aller dans le sud et je vais relaxer sur mon île déserte. Mon père a toujours voulu aller dans le sud. Depuis des années, il a prophétisé que quand il était pour être rendu à la retraite, il était pour aller sur le bord de la plage et relaxer. Hallelujah! Bon, mes parents, là, moi, qu'est-ce que je trouve merveilleux? Quand on est béni, là, on s'en fout qu'est-ce qu'il y a dans le compte de banque. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'argent si on est béni. Écoutez bien, on peut en avoir, là, mais qu'on ait ou qu'on n'ait pas, ça change absolument rien pour Dieu. Parce que Dieu a toujours une façon de nous bénir. Mes parents, là, écoutez bien, si j'ai le droit de témoigner de vos voyages, oui, OK, bon, c'est pas. Mes parents, là, ils se font inviter. « Hey, Pasteur Wallace et Fernand, est-ce que ça vous tente de venir avec nous au Mexique, genre 2 mois, dans un resort de 5 étoiles, pendant 2 mois, là? » »« Ah oui, ça nous ferait bien plaisir. » »« Parfait, mais vous allez être entouré de millionnaires pendant 2 mois, ça va être difficile, là. » »« Ah oui, on est capable, oui, oui. » Et puis là, finalement, ils vivent vraiment pendant un temps de bénédiction ultime. C'est gratos, ça coûte absolument rien. Ils se font griller, ils parlent avec des millionnaires à droite, des millionnaires à gauche. Mais eux sont pas millionnaires. Ils ont plus que les millions, eux autres. Regardez, ils ont beaucoup plus. Ça dit ici. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or. Ils ont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la bénédiction de Dieu sur leur tête. Donc, même si on n'a pas une scène, on peut aller en vacances. Oh, c'est merveilleux. Mais là, on peut dire, ben, je vais aller en vacances avec Chick et Chick, carte de crédit. Non, c'est pas ça. Attendez le temps de Dieu, vous allez y aller d'une bonne façon. OK. Une autre, mais je pense, ça fait quoi? 3, 4, 5 voyages qui se font bénir. Ils sont partis en train, là, récemment. Vous faites tout le tour du Canada en train, gratos. Un autre voyage dans les croisières, gratos. Est-ce que je peux vous parler de mes voyages maintenant? Hey, il me reste-tu bien du temps? OK. Écoutez bien. Notre premier voyage de noces. Ma femme, elle disait, ben, notre seul voyage de noces. Ma femme, elle dit, j'aimerais donc ça aller en croisière. Et moi, je pensais que c'était pour les personnes âgées. Aller en croisière. Je dis, ah, ouais, tu veux aller en croisière? Bon, OK, si tu veux y aller, on ira bien. Là, et finalement, mais là, cette fois-là, c'est ma grand-mère. Je dois vous avouer. Ma grand-mère, a dit, vous allez en croisière? J'ai dit oui. Elle dit, si je vous donnais 3 000 $, est-ce que ça pourrait vous aider? Ouais, ça pourrait nous aider, ça. Donc, en tout cas, on est allé en croisière, ça nous a coûté pratiquement rien. OK, ça, c'est ma grand-mère, vous avez dit. Ben, c'est bon. Mais là, j'ai travaillé dans un autre ministère, fait un transfert pendant un temps, un ministère de télévision. Ma femme était tannée, ben fatiguée plutôt, épuisée. Elle dit, « Ah, j'ai besoin des vacances. » J'ai dit, « Ben là, je viens juste de commencer une nouvelle position. C'est assez rare qu'on commence une nouvelle position en vacances. » Elle dit, « Ouais, mais j'ai vraiment besoin des vacances. » En tout cas, moi, je prie là, que Dieu me donne des vacances. J'ai dit, « OK. » Là, je m'en vais pas au compte de banque, je m'en vais à notre boîte postale du ministère. Une carte, 2 000 $ dans cette carte-là. C'est écrit « Bon voyage ». C'était anonyme, on ne sait pas de qui ça vient. Mais quelqu'un nous envoie 2 000 $ pour aller en vacances. J'ai parlé avec mon nouveau patron. J'ai dit « Écoutez, je sais que je viens juste de commencer mon emploi avec vous, mais permettez-vous que je prenne un 100 $. On va s'en aller en vacances. Ma femme a vraiment besoin des vacances. » Il dit « Allez en paix. » Donc, on est allé en vacances, encore gratos. N'est-ce pas merveilleux, ça? Bon, là, comme vous savez, on est allé en croisière cette semaine. On a eu du bon temps. C'était super béni. Mais là, juste avant d'aller en croisière, on avait l'argent, mais ma femme, elle disait « Seigneur, elle priait, sans que je le sache. » Elle dit, « Seigneur, j'aimerais donc ça avoir des... J'aimerais que tu bénisses davantage nos finances. » Est-ce que c'est correct de prier comme ça, pensez-vous? Elle a prié, « Seigneur, j'aimerais ça. » Mais quand elle a dit ça, une sœur a reçu dans son cœur qu'elle devait nous donner un certain montant. Et dans ce certain montant, finalement, en tout cas, c'est pratiquement la même valeur que notre voyage. Bon, ben là, elle nous a dit, « Seigneur m'a dit de vous donner tel montant, est-ce que vous voulez le recevoir? » On dit, « Oui, on veut le recevoir. » On accepte au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, juste pour vous dire, nos voyages, pratiquement, là, les beaux voyages ont été super bénis. On a vu la main de Dieu et on n'est pas des mendiants. Amen. OK, là, je vous parle de voyage. Vous allez sortir de cette église pensant, ben là, il parle juste de vacances, ce pasteur-là. C'est quoi son affaire? Non, non, écoutez bien. Je veux vous faire comprendre, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bénédiction. Dans le monde, il y a la malédiction qui règne, ok? Vous êtes conscient, la malédiction est là, la pauvreté fait partie de la malédiction, vous pourrez lire Deutéronome 28. Étudiez Deutéronome 28, la première partie c'est comment être béni, la deuxième partie c'est comment être maudit. Vous choisissez ce que vous désirez. Moi j'aime mieux être béni, amen? Est-ce qu'il y en a avec moi qui aime mieux être béni? Mais il y en a, si vous voulez être maudit, allez-y fort, il y en a full pour vous autres. Ok, on continue. Mais là, on comprend. Si on est béni, voici ce que Dieu va nous donner. Quand on pense, ok, quand on est erroné dans notre croyance et on dit la pauvreté c'est une bénédiction, c'est un mensonge. C'est pas biblique ça. Quand on dit ben la maladie que j'ai reçue, c'est une bénédiction. En anglais on dit in disguise. C'est une bénédiction cachée là. Si Dieu me bénit par ça, non, c'est Satan qui te maudit par ça. OK, soyons véritables avec la parole de Dieu. On doit respecter ce que Dieu a dit. Dieu a dit la maladie, la pauvreté, ça fait partie de la malédiction. Mais la bénédiction, c'est le contraire. Amen? OK, il y a du monde avec moi encore. Il y en a qui sont jaloux là en ce moment. Comment ça, il part toujours en vacances, lui? Non, non, mais c'est pas juste pour moi, là. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. Hein? Sauf qu'on a une deuxième croisière en 12 ans, c'est pas la fin du monde. Amen. Mais là, gloire à Dieu. Je continue. Okay. Non, non, mais soyez pas jaloux. Si vous êtes jaloux, là, il y en a certains d'entre vous, mais j'aimerais ça moi aussi. C'est pour tout le monde qui va être béni. OK? Dites-vous, quelqu'un est béni, là, vous avez le choix d'être jaloux, critiqué, ou dire, je suis le prochain en ligne. C'est comme au McDo, quand vous êtes au McDonald's, vous êtes pas, hey, il a reçu sa grosse frite avant moi. Colin, ça me dépasse. Non, non, vous dites, je suis le prochain en ligne, je me réjouis parce que je vais manger les frites prochainement dans quelques instants. Comprenez? OK, on continue. Bon, le psaume 112, versets 2 à 3. Là, je vous dérange encore. Je donne encore d'autres versets pour vous déranger. Dites à votre prochain que Dieu te dérange. À un tel point que votre vie change. OK, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai lu là? Ça dit, il a dans sa maison le bien-être. Point. Le bien-être social? Non, c'est pas ça qu'on vient de lire. On va le relire, là. Vous avez mal lu. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Il est juste en Dieu. Amen. Bon, là, ça, c'est des versets que les Juifs, ils croient, tout simplement. Ils croient ça. Eux autres, ils n'ont pas eu le mensonge qu'on devait être pauvre pour aller au ciel, là. Ils n'ont pas eu le mensonge qu'il fallait gagner notre ciel en étant pauvre. Non, non, eux, ils croient ce que Dieu a dit, tout simplement. Genèse 13, verset 2. OK, un autre texte, Genèse 13, verset 2, il est écrit « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Avez-vous lu ça dans votre Bible, là? Genèse 13, verset 2, « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Bon, pour eux, pour le peuple juif, ce n'est pas un problème de lire ces versets-là. Ils vont lire les versets et puis ça fait du sens pour eux. Il n'y a aucun obstacle devant eux pour dire « Oh, c'est impossible, non, 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 je ne peux pas croire ça. » Mais nous les chrétiens, on va lire ces mêmes textes-là et on va avoir 10 000 barrières. « Non, ça ne peut pas venir à moi. Non, c'est impossible. Non, non, je ne peux pas être béni. » Il y a même des gens, j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit « Hey, moi, je suis malade comme un chien et je suis pauvre. Je ne peux pas aller à l'église de la Victoire parce qu'ils vont prêcher que Dieu veut me guérir et me prospérer. » Hey, d'un coup, que Dieu te guérirait. Hey, oh, quelle horreur! Peut-être vous sortirez de votre faillite. C'est vrai, reste chez vous, de peur que Dieu change votre situation. Non, mais c'est vrai, je l'ai entendu, ça. OK, mais il y a des gens qui ont des problèmes. OK, ils ont des problèmes à ce niveau-là, à croire. Mais les Juifs, eux, n'ont pas de problème. Maintenant, voyons les chrétiens renouvelés par la parole de Dieu. Les gens, là, qui n'ont pas peur de prendre toute la Bible. Ils prennent pas juste des versets du Nouveau Testament qui parlent sur la disette, puis oui, disette, oui, alléluia, alléluia, disette. Non, mais ils disent, oui, je comprends, on peut passer par des tas de disettes, parce que des fois, on va se sacrifier pour l'avancement du royaume de Dieu, OK, oui, je comprends ça, mais en même temps, regardons, on a un héritage en Jésus, OK? Bon, êtes-vous prêts maintenant? Dites oui. Bon, Galates 3, 29. Il est écrit, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Est-ce que je peux le relire? « Si vous êtes à Christ, êtes-vous à Christ ce matin? » Bon, vous êtes chrétien. « Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Croyez-vous ça ce matin? C'est dans le Nouveau Testament, là. Pour ceux qui ne croient pas que Dieu veut nous bénir, qui croient uniquement dans le message de la pauvreté, dans la malédiction, même si Christ nous a racheté de la malédiction, eux, ils veulent vivre là-dedans, là. À quelque part, on doit voir ce verset-là, c'est « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, héritier du salut complet. » Le salut, c'est la délivrance de toutes les œuvres de l'ennemi. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la dépression, toutes les choses que l'ennemi veut venir faire dans vos vies pour vous voler, vous égorger, vous détruire, la délivrance, le salut, le mot salut nous parle d'être délivré de toutes ces choses-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est pas juste sauvé dans notre cœur pour aller au ciel. Oui, ça en fait partie, là. Mais le vrai salut, c'est d'être délivré de toutes les œuvres de Satan. Tout le kit, pas une portion, mais on lit ces versets-là. Savez-vous, des fois, la pensée des chrétiens, ils disent, « Ben oui, je crois ces versets-là, mais c'est juste spirituel, mon frère. » Quand on parle à un juif, il dit jamais, on lit ces versets, « Ouais, mais c'est juste spirituel. Dieu ne pourrait pas me bénir financièrement. » Non, 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 c'est juste dans mon cœur qu'il va me bénir. Mais les chrétiens, on fait ça, nous autres. On dit tout le temps, on lit la Bible, mais on ne croit pas toujours la Bible. Mais nous, on change ça aujourd'hui. Amen. OK, je continue. 1 Timothée 6, verset 17. Écoutez bien ceci. Là, ça nous donne la clarté pour nous, là, pour les enfants de Dieu, dans la Nouvelle Alliance. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. » Je vais relire ça, parce qu'il y en a, vous ne croyez pas encore, là. 1 Timothée 6, 17. Êtes-vous là ce matin? Gloire à Dieu. Ici, là, vous allez voir la perspective de Dieu. C'est tellement clair. C'est clair comme l'eau de roche. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Dites amen. Bon, s'il y a quelqu'un d'orgueilleux à côté de vous, ils vont changer avant la fin de la réunion. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Il y a des gens aux États-Unis, en 2008, qui ont perdu beaucoup d'argent et ils ont perdu leur sécurité parce que leur foi, leur amour était placé dans de l'argent qu'ils ont perdu. Il y en a qui ont perdu leur maison. Mais l'argent, toutes ces choses-là, c'est incertain. Okay? La richesse de ce monde est incertaine. Mais ensuite, ça dit, mais de la mettre votre confiance, votre espérance, votre confiance, mais de la mettre en Dieu. Voyez-vous, mettre votre confiance à bonne place, là, en Dieu, qui nous donne avec un petit peu. Non, non, non. Qui donne aux autres. Non, ça dit qui nous donne. Dis nous donne. si vous êtes dans la Nouvelle Alliance, c'est pour vous, là, qui nous donne avec abondance des choses spirituelles. Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le plaisir. Quel scandale, quelle fausse doctrine à l'Église de la Victoire du Québec. Dieu veut qu'on soit heureux. Wow! Oh! Non, c'est trop nouveau comme doctrine, ça. Ça se peut pas qu'on serait heureux. Que les gens nous verraient à sa rue et disent, mon Dieu, ils ont l'air heureux, ce monde. Non, ça se peut pas, ça défraie notre image québécoise. Au nom de Jésus, on va la briser, cette image-là. On va être heureux. Amen. On va jouir de toutes les bénédictions de Dieu, sans excuse. Amen. Pourquoi? Parce qu'on est biblique. Moi, je vais le relire encore. Il y a des gens, vous avez de la misère là, matin. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. OK, la clé, c'est là. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est notre cœur. Qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur, qu'on veuille le servir, qu'on soit en amour avec lui, qu'on puisse parler à droite et à gauche de notre passion pour Jésus. Et là, le Seigneur, il est béni parce qu'il sait qu'on est des adorateurs du seul vrai Dieu et qu'on n'aime pas notre auto, on n'aime pas notre maison. C'est pas ces choses-là qu'on aime. C'est Dieu qu'on aime. Et quand Dieu le sait qu'on est amoureux de lui, et là, il dit, ben, cette personne-là m'aime vraiment. Moi, je peux bénir cette personne-là. Pourquoi? Pour qu'il devienne un canal de mes bénédictions pour rejoindre d'autres personnes. C'est ça la clé. Quand je suis béni financièrement, je peux bénir d'autres personnes. Amen. Quand vient le temps de l'offrande, au lieu de dire, je vais sortir mon 25 cents, ching, 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 dans l'église, non, je peux sortir des dollars pour dire, Dieu m'a tellement béni, je suis capable de bénir davantage, on a besoin d'une troisième caméra, une quatrième, une cinquième caméra, ben gloire à Dieu, Dieu m'a tellement béni, je suis capable d'acheter une caméra pour l'église. Ah, l'église, on va acheter 500 000 chaises pour notre prochain sanctuaire, 500 000 chaises, j'ai dit. Bon, ben je vais en acheter peut-être 200 000 chaises, moi. Donc, comprenez-vous, on va dire, oh, on a besoin de construire des studios de télévision, ben, est-ce que je pourrais acheter une des caméras? Est-ce que je pourrais peut-être acheter le décor, moi? Pasteur, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît? Là, je vais dire, ben oui. Mais si vous êtes cassés comme des clous, ben, prions ensemble. Non, c'est, oui, Dieu veut qu'on prie, mais il veut qu'on passe à l'action. Puis en même temps, il faut être renouvelé dans nos pensées. C'est-à-dire, soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. OK? Donc, faut changer notre mentalité. On ne peut plus continuer dans la malédiction de la pauvreté et voir tout ce que Dieu veut pour le Québec. Comprenez ça ce matin. On doit voir une révolution. On doit vivre une révolution ensemble. Croyez-vous ça ce matin? Vous devez vivre une révolution. Si vous dites, ben moi, je suis toujours endetté, ben c'est temps que ça l'arrête, ça, enfant de Dieu. Êtes-vous tanné d'être sous l'esclavage de Mastercard? Êtes-vous tanné? Bon, ben ceux qui sont pas tannés, continuez, il n'y a pas de problème, vous êtes libre. Mais ceux, vous dites, ben moi, je veux pas être lié à Mastercard, je veux faire comme les Juifs qui ont compris ça, là. Au lieu d'être esclave, moi, je veux être celui qui prête l'argent aux autres, ou qui en donne en plus. Comprenez-vous? OK. Je continue. OK, c'est beau. Hey, le temps avance vite, hein? Faut que j'arrête. Hey, c'est-tu plate? C'est plate. OK. Qu'est-ce que je fais? OK, je vais vous donner 4 minutes encore. Parce qu'il y a trop d'affaires, il faut que je vous donne. Hey, mais j'ai même pas touché à un quart de ce que je voulais dire. Mais écoutez bien, l'affaire est là, Dieu veut qu'on change notre vision des choses. Dieu veut qu'on vive au sommet. Moi, c'est facile pour moi de croire ces choses-là, parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie maintes et maintes fois. J'ai vu la bonté de Dieu. C'est merveilleux. Dieu est bon, il est vraiment bon. La plus grande chose, il veut là, il veut sauver le plus grand nombre. La majorité des gens sur notre planète, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils s'en vont en enfer. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont pires que les autres. C'est parce que ceux qui rentrent au ciel, c'est seulement les pardonnés. C'est seulement ceux qui disent, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis imparfait, j'ai besoin d'être pardonner, purifier. Quand Dieu purifie une personne, là, la personne s'en va au ciel, qu'elle meure aujourd'hui ou demain, peu importe, mais elle a été pardonnée, elle s'en va au ciel. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tout le monde dans son Église aussi, non seulement soit sauvé, mais soit délivré des œuvres de Satan, la maladie, la pauvreté, toutes ces choses qui détruisent. Il veut libérer ses enfants. Comprenez-vous ça? Le cœur du Père, pour vous, là, il veut votre bien. Je sais que c'est une révolution québécoise, mais il veut votre bien. C'est vraiment ça. Le message du salut, c'est la délivrance des œuvres de Satan. On a tellement de la misère à croire que Dieu est bon au Québec. On a tellement entendu le contraire. Mais Dieu veut vous délivrer et non seulement juste vous dire, ben là, vous êtes libre, vous êtes plus enchaîné. Ah, mais on s'est réjoui longtemps. On a dit, finalement, là, les chaînes sont brisées. Je suis pas enchaîné. Alléluia, gloire à Dieu. Mais là, Dieu dit, oui, mais écoute, là, t'es libre. Pourrais-tu faire quelque chose maintenant, là? C'est là ce qu'on en est, là. On est resté à côté de la prison. La porte est ouverte. Alléluia, je suis libre, là. Alléluia, je suis libre et je bouge pas partout et je fais rien. Puis là, dans notre vie chrétienne, on se réjouit, je suis libre. Oui, puis tu es aussi pauvre, tu es aussi malade, mais je suis libre. Et une autre chose importante à remarquer, c'est que là, Dieu dit, ouais, mais regarde, j'ai une destinée pour ta vie, j'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Savais-tu que toi, le monsieur, là, celui qui travaille sur le chemin de fer, là, écoutez bien ce témoignage-là, il y a un petit monsieur, deux petits monsieur. Ils travaillaient sur un chemin de fer. Les deux faisaient avec leur marteau sur les clous, les tracts de chemin de fer en québécois. Mais ils étaient là, ils travaillaient ensemble. 30 ans plus tard, on voit un petit monsieur, il est en train de clouer des tracts de chemin de fer. Mais là, il voit un petit monsieur qui descend du train. Le petit monsieur est habillé en veston, cravate. Il dit, hey, bonjour Jean-Guy. Bonjour Roger. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Comment ça va? Ben oui, ça va bien, mais ça va bien. Mais finalement, il y en a un autre qui vient voir celui qui travaillait à terre. Il dit, ah, tu connais le propriétaire de la compagnie? Ben oui, il y a 30 ans, j'ai travaillé avec lui sur cette même traque de chemin de fer. Comment ça, toi, t'es là, puis lui, il est là? Ben moi, je travaillais pour la paye. Lui, il a travaillé par passion. Lui, il avait une vision, il avait une destinée. Puis ça, c'est une histoire vraie, ce que je vous dis là aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent pour la paye. C'est-tu triste, ça? Moi, je travaille pas pour la paye. Moi, je travaille pour Jésus. Moi, je travaille pour Jésus, puis c'est lui qui prend soin de moi. Puis tous mes besoins sont rencontrés selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Puis j'ai une destinée. Vous avez une destinée. Dieu, là, il veut vous donner la vision d'être au sommet, sur le haut de la montagne. Vous avez une destinée, des grandes choses accomplies. Je peux-tu dire juste une autre chose de plus? Il y a des gens qui disent, oui, mais pasteur, moi, là, j'ai déjà cru que Dieu était pour se servir de moi, admettons, dans les affaires. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a eu beaucoup de télémarketing ou des choses à réseau, là. Comment on dit? La vente à réseau. Il y a des gens qui disent, ah, ben, regarde, j'ai cru, c'était un bon produit, c'était une bonne vision financière ou de marketing, c'était bien, ça, c'était bien. Mais ça n'a pas marché pour moi. Pourquoi ça n'a pas marché, pasteur? Savez-vous, une des choses qu'on ne fait pas des fois, c'est qu'on n'évalue pas vraiment ce que Dieu nous appelle à faire. On dit oui, c'est peut-être un bon produit, peut-être oui, c'est une bonne façon de faire, mais non, vous n'êtes pas appelé à le faire. Vous n'avez pas le don de la vente, peut-être. Savez-vous, des fois, on ne reconnaît pas qui nous sommes. Et je vais en parler la semaine prochaine parce que j'ai trop de points et je veux vraiment vous donner des clés. Je vais vous dire juste la fin, c'est quoi les clés, là? La vision de la maintenance ou de l'excellence. Puis il y a 6 points. Comment recevoir la vision de Dieu pour votre vie? Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais je ne peux pas vous dire. Mais il y a plein de choses pour recevoir la vision que Dieu a pour vous. Vous avez une destinée. Dieu veut là, que vous puissiez vous relever. Vous êtes peut-être en bas de la montagne, dans la colline, dans un précipice. Mais là, montez sur le haut de la montagne et regardez au loin. Dieu a un appel sur votre vie. Dieu a une destinée. C'est pas assez d'être libéré. Là, faut passer à l'action. Là, faut faire du ravage dans le territoire de l'ennemi. Il y en a autour de vous qui sont malades, qui sont déprimés. Là, c'est à votre tour d'aller relever ces personnes-là, dire non, c'est pas Jésus qui te rend malade, c'est Jésus qui te guérit. Non, c'est pas lui qui a fait ci, qui a fait ça, mais Jésus est là pour te relever, te donner ce que tu as besoin. Il veut te donner la vie éternelle et la vie en plus en abondance. Donc, Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous, mais c'est important de saisir les vérités que c'est pas la tradition, c'est pas la théologie qu'on a entendue au Québec pendant longtemps. C'est le temps de vivre un changement. C'est temps de voir ce que Dieu a dit. Il dit, moi, je vais être dans l'équilibre. Je vais croire tout le conseil de Dieu. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je mets ça ensemble et je dis, oui, Seigneur, je crois ta parole, je crois que c'est pour moi. Je veux adopter la mentalité de l'Ancien Testament. Je ne vivrai plus dans l'endettement. Oui, je vais faire des plans. Oui, je vais prier. Oui, je vais chercher la face de Dieu. Et là, je vais m'attendre à vivre une récolte dans ma vie. Je vais m'attendre à devenir une source de bénédiction pour les gens autour de moi. Amen. Êtes-vous capable de faire ça? C'est moi, je deviens une source aujourd'hui. Amen. Je vais inviter l'équipe de la louange. J'espère que vous comprenez mon cœur. Il y a plein d'autres versets là que je pourrais... Allez, je vais finir avec un pendant que l'équipe s'avance. Le mot shalom, qui est traduit dans la Bible francophone comme paix. En anglais, c'est écrit prosperity. Le mot shalom nous dit état complet, perfection, sainement, bien-être, paix. OK? Ça veut dire état complet en nombre. C'est ça que Dieu met sur notre tête, son shalom, rien de manquant, rien de brisé. C'est la Bible ça, état complet, sûreté, solidité, bien-être, santé, prospérité, paix, quiétude, tranquillité, contentement, paix, amitié, des relations humaines et avec Dieu spécialement dans la relation de l'Alliance, paix par rapport à la guerre et paisible. Ça c'est, on vient juste de gratter la surface de l'héritage, et juste en terminant. Je finis juste une chose. J'étais à Toronto, j'ai prêché là-bas pour la convention Victory, comme vous savez, et il y avait un pasteur, Pastor Lorne Davis, le plus vieux pasteur des Églises de la Victoire, qui a, supposément, là, il était là, puis il a prêché, il a dit, savez-vous, je viens de réaliser une chose. Il dit, ça fait des années que je prêche, et Dieu m'a enseigné une chose récemment, puis il nous a partagé ça. Il a dit, il y a cinq niveaux de bénédiction, et je vais juste vous en lire. Le premier niveau de la bénédiction, c'est de rien manquer. Il dit même le peuple qui était sous le jugement dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 2:7, même le peuple sous le jugement, pendant 40 ans, il ne manquait rien. Il dit quand on ne manque rien, on est juste la surface, c'est juste le premier niveau de la bénédiction. On n'a même pas touché aux autres niveaux. Puis j'ai plus le temps de vous le dire. Mais j'ai toute ça de note, là. Je disais, c'est bon. Oui, c'est bon. Sauf que il y a plein de niveaux de bénédiction, puis nous autres, on est non seulement, il nous manque plein d'affaires en plus, mais ceux qui étaient sous jugement n'avaient rien de manquant. À quelque part, on devrait espérer un petit peu plus. Ça fait-tu du sens un peu? Amen. Non, mais je sais pas, là. Mais ça dit, on a une meilleure alliance, des meilleures promesses, mais on vit comme s'il n'était même pas là. Donc voilà, aujourd'hui, on va terminer avec un chant de louange, d'adoration, mais on va prier aussi. Est-ce que c'est correct? Merci pour votre patience. Je sais que je suis un petit peu passionné parce que je suis tanné de voir le monde ne pas recevoir ce que Dieu en réserve parce qu'ils ont entendu des mensonges. Aujourd'hui, on va prier. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier. Faire du ménage dans nos pensées. Père éternel, je viens devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Je veux te remercier parce que toi, Seigneur Dieu, tu dis toujours vrai. Ta Bible est vraie. On croit ta parole. Et Seigneur Dieu, on croit, Seigneur, que dans ta vérité, on est affranchi. Mais Seigneur, aujourd'hui, c'est pas assez d'être affranchi. J'ai des frères et des sœurs dans cette église, Seigneur, qui sont affranchis, mais là, qui ont besoin de prendre des pas par l'avant. Là, ils ont besoin de marcher. Là, ils ont besoin de commencer à recevoir de toi, Seigneur, une stratégie pour leur vie. Peu importe l'appel sur leur vie, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les finances, que ce soit dans leur travail, peu importe le milieu, Seigneur, tu les appelles à vivre l'excellence. Et je prie aujourd'hui, Seigneur Dieu, qu'on puisse vivre un miracle dans nos pensées, qu'on puisse enlever toutes les pensées de cette société qui est contraire à ta parole et qu'on puisse être renouvelé aujourd'hui et dire, Seigneur, je prends ta parole dans mon cœur, je chéris ta parole, je crois ta parole et je m'attends de vivre la récolte. Seigneur, je prie que ça soit une réalité pour mes frères et mes soeurs dans cette place qui puissent commencer à voir que véritablement tu es bon, que tu as des bons projets pour leur vie et qu'on puisse voir une révolution au Québec, des gens sauvés, des gens guéris, des gens transformés à cause de cette parole qui libère. Au nom de Jésus, on le prie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Dieu est bon.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.